Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
Les effronter.
Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
Salut, bienvenue à l'émission, comme on dirait au lac Saint-Jean, Faro. Je me suis envenue ici tantôt et déjà la chaleur était suffocante à Montréal. Et je vous parlais récemment de ma difficulté à recevoir mes masques de protection que j'avais commandés au mois d'avril. Eh bien, hasard, ils sont tous arrivés la même journée dans ma boîte roulette, c'est-à-dire hier, et j'ai eu l'occasion de les essayer, ces masques qui sont tous faits au Québec, mais qui n'ont pas, je dirais, le même degré de confort. Et c'est vraiment important que je vous parle de ça parce que on nous répète un peu partout d'acheter des masques en ligne, les faire venir, mais je pense que c'est important de regarder les commentaires des gens qui les ont déjà reçus parce que tantôt, je m'en allais sur Sainte-Catherine avec mon nouveau masque et il descendait. Pas tellement pratique. T'sais, quand on dit qu'il faut pas se mettre les mains dans le visage et qu'il faut couvrir justement le nez, la bouche, d'avoir à jouer d'en face pour remonter le masque. Donc, certaines compagnies font meilleure figure que d'autres. Il y a ma collègue Sophie Durocher qui portait un masque Canuck qui avait l'air particulièrement bien conçu. Je pense que je vais me tourner vers cette ressource Canuck qu'on connaît bien pour ses manteaux. Mais parlons de masque encore parce que là, avec la chaleur, porter le masque, vraiment, c'est difficile, c'est suffocant. Hier, j'ai essayé d'aller courir avec un masque parce que j'en ai commandé un modèle sportif, si on veut, une espèce de spandex. Je peux vous dire qu'à 30 degrés, là, respirer là-dedans, c'est pas évident. Et je sais que la tentation va être forte pour plusieurs d'entre nous de le retirer dans une journée comme celle-ci, là, quand le mercure atteint 38-39 là, sans le facteur humidex. C'est excessivement difficile de se promener avec ça. Puis les enfants, particulièrement, vont être récalcitrants à l'idée de se promener avec ces masques-là. Ils vont suffoquer, donc ça sera quand même un combat que j'imagine les parents auront à mener cet été, j'en suis. Et pendant que je déambulais sur Sainte-Catherine, évidemment, je voyais des gens masqués et j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une pensée pour nos résidents des CHSLD, résidences pour personnes âgées aussi. On en a parlé, ça sera un de nos sujets aujourd'hui à l'émission. On discutera entre autres avec le directeur du bureau d'enquête, Jean-Louis Fortin, parce que la situation dans les CHSLD durant cette canicule qui est commencée déjà est quand même préoccupante. On va parler aussi de ce rapport de l'armée canadienne qui a été dévoilé ce matin. Les militaires qui se sont rendus dans les CHSLD quand même ont des constats un peu alarmants. Donc, je pensais à eux, aux pensionnaires des CHSLD, mais aussi aux gens qui travaillent dans les résidences, hein, qui doivent porter masque, blouse, visière. Ça doit être excessivement chaud et je ne sais pas si on peut pourra se rendre dans les zones qui sont destinées là, pour le rafraîchissement, là, les fameuses aires communes pour que les gens puissent aller se rafraîchir. Donc, ça sera tout un défi. Québec a commandé des aires climatisées, mais bon, ça n'a pas l'air de se passer très, très bien. On en discutera tantôt. Et aujourd'hui, au point de presse, juste avant qu'on y aille, on est supposé faire une annonce sur les campings. Là. Donc, dans quelle mesure on pourra aller camper au Québec? Ça va être quoi les conditions? Est-ce que vous avez envie d'y aller, vous, camper? Est-ce que les gens des régions ont peur de voir arriver les campeurs des autres régions? Puis là, je fais particulièrement référence aux campeurs qui viendraient de Montréal. Là, je pense que c'est des questions qui sont légitimes de se poser. Les réservations aussi, les prix, de quoi ça va avoir l'air. Donc, ce sera aussi un des sujets dont on va discuter aujourd'hui. Mais pour l'instant, allons tout de suite au point de presse. On vous revient tout de suite après avec Vincent Dessureau pour analyser tout ça.
Pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné aujourd'hui de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr. Horacio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole.
Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord, le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par une entreprise de Québec qui s'appelle Sur Mesure et qui a fait une cravate aussi. Aux couleurs de l'arc-en-ciel, de l'espoir, là, ça va bien aller. Donc, encourageons nos artisans québécois qui fabriquent des masques et puis portons le masque. Pour faire un peu différent, on a commencé depuis ce matin à publier les chiffres sur le bilan. Donc, je vous répéterai pas tous les chiffres que vous avez déjà. Je vais passer plutôt à certains commentaires sur la situation en général. Bon, évidemment, la situation reste difficile dans les CHSLD. Il continue d'y avoir beaucoup de décès. Le nombre de personnes qui est infecté diminue, mais la situation reste difficile du côté du personnel. Je veux vous rappeler un petit peu la séquence dans les CHSLD. Depuis plusieurs années, il manquait à peu près 10 000 employés dans les CHSLD pour avoir ce que j'appellerais des ratios raisonnables. Donc, quand on est arrivé au gouvernement, il y a un an et demi, on a augmenté le budget. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à combler les postes. Donc, on a affiché les postes, mais on ne les a pas comblés. Notre objectif, c'était éventuellement, durant la négociation de la convention collective qui commence, là, qui a commencé dans le fond, même si ce n'est pas signé, le 1er avril 2020, de rehausser de façon importante le salaire, entre autres, des préposés aux bénéficiaires pour être capable justement, de combler ces 10 000 postes. Et puis, bon, je l'ai déjà dit, je le répète, s'il y a une erreur qu'on a faite durant cette année et demie, c'est qu'on aurait dû, en même temps qu'on a augmenté les budgets des CHSLD, aurait fallu aussi augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires pour que les budgets soient dépensés, parce qu'on s'est retrouvé dans une drôle de situation où il y a des centaines de millions de dollars qui avaient été prévus au budget qui n'ont jamais été dépensés parce qu'on n'arrivait pas à recruter les préposés aux bénéficiaires en particulier. Bon, est arrivée la crise et à cause de la crise, s'est ajouté un autre 10 000 employés qui sont absentés. Soit qu'il y avait la COVID-19 ou dans certains cas, il y avait peur d'attraper la COVID-19, commence un petit peu à revenir. Là, on est rendu à 9700 qui sont absents actuellement, mais il reste que quand même, là, il manquait 10 000 employés avant. On essayait de combler les postes, là, surtout avec des temps partiels. Ce qui explique pourquoi on a la moitié des employés qui sont à temps partiel. Puis là, pour remplacer les 10 000 personnes absentes, bien, on a utilisé deux moyens. D'abord, je contribue. Donc, des gens qui n'avaient pas nécessairement de formation, mais qui ont accepté de venir travailler dans nos CHSLD. Puis, les soldats de l'armée. D'ailleurs, j'ai parlé ce matin avec Justin Trudeau. J'ai demandé que les 1000 soldats restent jusqu'au 15 septembre, le temps, je vais vous en parler tantôt, de former des employés pour combler les postes qui sont manquants. Donc, le deuxième, si je peux appeler ça comme ça, 10 000 employés qui nous manquent, a été comblé temporairement par des gens pas formés. Et là, on espère que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ces 10 000 employés-là vont revenir au travail. Mais il nous reste le premier 10 000, le 10 000 qui manque depuis plusieurs années dans les CHSLD. Là, le problème reste entier. Donc, on va, dans les prochains jours, lancer une grosse campagne pour convaincre 10 000 personnes de s'inscrire à une formation pour devenir préposé aux bénéficiaires. Donc, ça va se donner dans plusieurs dizaines de centres de formation professionnelle, en partie aussi sur le terrain. Donc, ce qu'on vise, là, c'est de recruter 10 000 personnes qui accepteraient de venir suivre une formation qui va durer 3 mois. Donc, ça veut dire de la mi-juin à la mi-septembre. Les personnes qui vont s'engager vont être payées pendant la formation, donc vont être payées comme des aides
de
service. Ça, c'est un salaire de 21 $ de l'heure, 760 $ par semaine. Et s'ils réussissent leur cours, après 3 mois, bien là, ils vont gagner le nouveau salaire qu'on donne soit via les primes temporaires ou qu'on offre dans les conventions collectives, qui commence à 26 $ de l'heure, donc 940 $ par semaine, 49 000 $ par année. Donc, je pense que c'est une offre qui est intéressante. C'est une offre aussi, bien sûr, puis avec raison, beaucoup de gens disent que ce n'est pas juste une question de salaire, de chiffres, d'argent. C'est quand même un travail valorisant, venir s'occuper des personnes vulnérables dans nos CHSLD. Il faut comprendre aussi qu'on va mettre en place un nouveau contexte. D'abord, en ajoutant 10 000 personnes qui n'étaient pas là, ça veut dire qu'on va avoir plus de monde pour faire le travail. Donc, ça va être plus agréable avec les 10 000 personnes additionnelles. Deuxièmement, on veut aussi regarder, puis on en a déjà parlé, pour rénover les CHSLD, pour construire des maisons des aînés qui soient plus belles, plus grandes. Et je le disais déjà à quelques reprises à ceux qui me posaient la question, on n'exclut pas, si 10 000 employés de plus, ce n'est pas suffisant, d'augmenter encore davantage les ratios. On ne l'exclut pas, mais on va convenir là qu'on a tout un défi devant nous autres de trouver 10 000 personnes qui acceptent de venir travailler à temps plein. Donc, 10 000 personnes de plus dans nos CHSLD. Donc, on va s'attaquer à ça avant d'inclure quoi que ce soit dans les conventions collectives. Là, il faut quand même être capable de livrer la marchandise. Mais je veux être très clair là, que j'exclus pas d'aller à plus que 10 000 si c'est nécessaire. Mais on veut offrir à tous les employés à l'avenir dans les CHSLD des conditions de travail agréables, d'avoir du temps pour parler avec les résidents, peut-être aussi changer le nom, hein, préposer aux bénéficiaires, on n'aime pas ça, bénéficiaires là, qui s'occupent des vraies personnes, des vrais résidents, avoir le temps, parce que c'est aussi important, ce travail-là de contact avec les résidents, que la partie qui est plus médicale. Donc, tout le monde, là, préparez-vous. Dans les prochains jours, on va vous donner les adresses là, des 40, 50 centres de formation professionnelle qui vont accepter des applications. Ça va commencer donc autour de la mi-juin jusqu'à la mi-septembre. Donc, mais quand même, une belle expérience. Bon, vous l'avez vu, on a eu un rapport de l'armée. Pas beaucoup de surprises. Évidemment, ça ne veut pas dire que la situation n'est pas difficile, mais je retiens surtout deux choses du rapport et des rapports, là, parce qu'ils ont fait un petit rapport sur chaque CHSLD où ils ont été impliqués. Deux choses. Bon, évidemment, le fait qu'il nous manque 10 000 personnes, ça fait qu'on a beaucoup de monde qui sont à temps partiel, ça fait que c'est très difficile de s'assurer que ça soit pas les mêmes employés qui soient dans les zones chaudes et dans les zones froides à l'intérieur d'un même CHSLD. C'est ce qu'on vise, puis je pense qu'on a réussi justement avec les gens de Je contribue puis les soldats qui sont arrivés à ce que ça soit très limité. Mais il reste que ce problème-là, on le connaît et puis vous le connaissez. Donc, c'est important d'ajouter du personnel, puis quand il y a une zone chaude, bien, que ce soit du personnel spécifique qui aille dans zone chaude. L'autre problème qui a été relevé, puis ça aussi, on s'y attendait, c'est l'utilisation du matériel de protection individuelle. Donc, comment et quand on porte un masque, une blouse, des gants, quand est-ce qu'on change d'équipement quand on passe d'un résident à l'autre. Même les militaires ont dû s'adapter, puis malheureusement, certains ont été infectés. Mais c'est sûr qu'en ayant 10 000 personnes qui n'ont pas eu de formation, qui sont pas qualifiés, pour la plupart. Il y en avait quelques-uns qui c'était des gens à la retraite qui sont revenus. Bien, c'est plus difficile d'appliquer les directives sur quand et comment porter le matériel de protection individuelle. Donc, je dirais, ce sont les deux remarques là qui reviennent. On n'a pas eu des remarques comme dans le rapport d'hier en Ontario. Bon, il y a un autre sujet que je veux parler, c'est les comparaisons avec les autres endroits dans le monde sur le nombre de décès au Québec. D'abord, je pense qu'il faut être très prudent. On l'a vu, puis le docteur Arruda a fait la démonstration au Québec. Toutes les personnes qui sont décédées de la COVID-19 ont été déclarées, parce que quand on regarde le surplus de décès par rapport à la même période l'année passée, on voit que c'est à peu près le même chiffre. Donc, ça veut dire que chez nous, ça a été déclaré complètement. Bon, vous avez vu des articles un peu partout dans le monde où on dit à certains endroits, bien, il y a la moitié des décès qui n'ont pas été déclarés. Et quand on va avoir tous les chiffres sur les comparaisons des décès en 2020 par rapport à 2019-2018, on va être capable, à ce moment-là, de faire des comparaisons. Donc, ça, c'est la première chose où il faut être prudent. La deuxième chose où il faut être prudent, c'est que le virus a frappé beaucoup plus dans les grandes villes du nord-est de l'Amérique du Nord et dans les grandes villes en Europe. Puis, quand on regarde les grandes villes du nord-est nord-américain et la plupart des grandes villes en Europe, on a un nombre de décès par million d'habitants qui est comparable au Québec, même dans certains cas, pire qu'au Québec. Donc, je parle entre autres de villes comme New York, Boston, Chicago, Détroit, Philadelphie, Washington, D.C., Londres, Paris, Madrid. Si vous allez voir les chiffres dans ces villes-là, c'est tout comparable ou pire à ce qu'on a vécu à Montréal. Il y a une exception. Une exception, c'est Toronto. Toronto a beaucoup moins de décès par million d'habitants de déclarés. D'ailleurs, j'ai lancé un défi au docteur Arruda, puis j'en lance un aussi à l'INSPQ, m'expliquer comment se fait-il que Toronto est dans une situation, parce que c'est une grande ville, évidemment, Toronto, complètement différente des autres grandes villes dans l'Amérique du Nord, là, dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Donc, je vous lance ce défi-là. Pourquoi? Là? Donc, on va se fier aux spécialistes, aux gens qui connaissent ça. Je termine avec mes remerciements du jour. Bien, mes remerciements du jour, c'est les personnes de Je Contribue puis les militaires. Je veux leur dire merci. Une chance qu'on vous a. J'en profite pour passer mon petit message. J'aimerais que les militaires reste jusqu'à la mi-septembre. Je sais, je n'ai parlé avec M. Trudeau, c'est pas facile, ils ont d'autres missions, mais je peux vous dire que tous les commentaires qu'on a eus sur les militaires, lorsqu'il y a eu une collaboration exceptionnelle entre le personnel de la santé et les militaires dans les CHSLD, donc on aimerait bien ça les garder jusqu'à la mi-septembre, le temps que les personnes qu'on va former cet été soient disponibles pour les remplacer. Bon, dernière chose aussi que je vous dis, je sais que beaucoup de gens ont hâte qu'on aille plus vite dans le déconfinement. Je pense entre autres à tous les rassemblements, donc que ce soit les réunions familiales ou entre amis à l'intérieur. Là, on a permis de le faire à l'extérieur. Je sais qu'il y a des gens qui se disent « quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir à 5, à 10 entre amis? » Je sais aussi que dans le monde artistique, il y a des gens qui ont hâte qu'on annonce une date pour les spectacles, quitte à ce qu'il y ait un tiers ou un demi des spectateurs. Je vous dis tout de suite, ça ne sera pas demain matin. Puis, la condition pour passer à cette prochaine étape, c'est vraiment qu'on contrôle la propagation du virus. Donc, qu'on réussisse ce qu'on a annoncé, donc les rassemblements extérieurs de 10 personnes maximum, la réouverture des commerces depuis lundi à Montréal, faut pas que ça amène plus de cas dans les hôpitaux. Donc, faut réussir cette étape-là pour espérer ensuite retourner à des rassemblements intérieurs. Bien sûr, avec des consignes, ça ne reviendra pas complètement comme avant, mais c'est important de respecter les consignes si on veut revenir à une vie un peu plus normale. Donc, je compte sur tous les Québécois là, pour réussir l'étape des commerces et des rassemblements extérieurs pour qu'on puisse ensuite se parler de rassemblements intérieurs. Good afternoon.
Alors, Vincent, est-ce que je comprends qu'il n'y aura plus de bilan des décès, des hospitalisations en ondes? Désormais, on fait comme on faisait le week-end, on envoie un communiqué.
C'est ce que je comprends aussi. Et pourquoi? On n'a même pas répété, parce que ça prend quand même 30 secondes. Là, tu rajoutes, pour les gens qui suivent ça tous les jours, une étape d'aller vérifier.
En même temps, c'est intéressant d'avoir l'évolution de tout ça. En tout cas, juste.
Oui, exact. Moi, j'étais un peu surpris aussi. Ça prend pas 20 secondes là, à dire. Je vous le dis quand même, si vous l'avez manqué plus tôt aujourd'hui, parce que c'est quand même 89 nouveaux décès. D'ailleurs, d'habitude, lorsqu'on voit des chiffres importants, on va l'expliquer. Puis là, on n'a pas eu cette explication-là. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui datent?
Ceci explique peut-être cela. On s'en va vers un déconfinement graduel. De plus en plus, on nous annonce qu'on va rouvrir des choses. Donc, peut-être que publier ou de parler ouvertement des décès comme on le faisait avant, c'est peut-être moins opportun.
En même temps, peut-être. On ne veut pas non plus rassurer trop les gens pour qu'ils se foutent un peu de la situation. Parce qu'au niveau des cas, ça va bien. 541 nouveaux cas. C'est quand même en baisse. Car on était à plus de 600. Et au niveau des hospitalisations, données très importantes. On est passé en bas des 1400, donc 1374. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le système de santé. Alors, une situation qui, malgré le déconfinement tranquillement, là, depuis quelques semaines, ça baisse. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ça risque de donner confiance au gouvernement d'aller de l'avant avec du déconfinement encore plus poussé un peu partout à travers le Québec. Alors que M. Legault, évidemment, central de son point de presse, encore les CHSLD, puisqu'il revenait sur ce rapport des Forces armées canadiennes.
Oui, la situation qui reste difficile dans les CHSLD. On s'en va tout de suite aux questions.
Avec Marco Belair, Cyrino, Le Devoir.
Oui, bonjour à vous tous. Monsieur le Premier ministre, comment décrivez-vous l'utilité du rapport des Forces armées canadiennes pour votre gouvernement, mais également pour le gouvernement fédéral à qui, j'imagine, il était d'abord destiné? Puis, est-ce que les Forces armées canadiennes ont outrepassé leur mandat en amassant des informations et en faisant rapport au gouvernement fédéral?
Bien, je pense que c'est dans l'habitude de l'armée canadienne, quand ils ont un mandat, que ce soit pour des inondations ou quoi que ce soit, qu'il y ait un rapport à la fin. Bon, on n'est pas à la fin, là, mais en tout cas, moi, je l'espère qu'on n'est pas à la fin, puis c'est ce que j'ai bien dit à quelques reprises. J'ai au moins 3-4 fois ce matin à Justin Trudeau. On aurait pu apprendre des choses. Ce que j'ai vu hier, c'est que Doug Ford a appris des choses avec ces rapports-là. Bon, nous, ce qu'on apprend, c'est qu'il manque de personnel, que parce que le personnel n'est pas formé, ils ont de la difficulté avec l'équipement individuel. Donc, moi, j'ai pas vraiment appris quelque chose dans ces rapports-là. Mais c'est une façon de faire là, de l'armée canadienne.
Le coup de main des Forces armées canadiennes est fortement apprécié par votre gouvernement, puisque vous leur demandez de rester jusqu'au 15 septembre prochain. Est-ce que Justin Trudeau vous a dit non? Puis aussi, vous parlez beaucoup de fierté depuis votre élection. C'est pas un peu gênant de devoir compter sur l'armée canadienne pour maintenir à flot le réseau de CHSLD québécois?
Bien, écoutez, moi, je pense que c'est un jugement qu'on porte sur plusieurs années où on a négligé les CHSLD. De dire qu'on est rentré dans cette crise-là, puis depuis 5 ans, 10 ans, il nous manque 10 000 employés dans les CHSLD, ça, c'est gênant. Évidemment, c'est pas facile de trouver 10 000 personnes disciplinés qui acceptent sur le champ de venir travailler dans un contexte pas facile. Donc, c'est pour ça que je suis content que sur les 10 000, là, il y en ait 1 000, que ce soit des militaires. Donc, moi, je pense que c'est gênant pour toute la société québécoise qu'on en soit rendu là, d'avoir besoin de 10 000 personnes. On aurait dû le faire bien avant, comme je l'ai dit, puis je le répète. Nous, on a fait une première étape en augmentant les budgets des CHSLD, mais il aurait fallu augmenter plus rapidement les salaires pour combler ces 10 000 postes-là, puis ne pas avoir besoin des militaires.
Si on poursuit avec Hugo Lavallée, Radio-Canada.
Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je veux revenir justement à cet aspect du rapport concernant le port de l'équipement de sécurité. Vous mentionnez qu'il y a une absence de formation de nouveaux employés, mais quand même, le rapport est un peu plus sévère que ça. On parle de mauvaise discipline d'employés ne respectant pas les protocoles mis en place. On évoque un manque d'assiduité, problème de leadership des gestionnaires, problème de priorisation. Donc, est-ce que c'est normal que des employés ne sachent pas utiliser de l'équipement de protection puis que l'armée doive se substituer aux gestionnaires pour établir l'organisation des soins, de la formation? Ça semble quand même indiquer un problème de leadership important.
Bien, écoutez, il faut tenir compte du contexte. 10 000 nouveaux employés qu'on a recrutés, puis ça inclut même les militaires, là, des gens qui n'avaient pas la formation, qui n'avaient pas l'expérience. Donc, c'est plus difficile d'appliquer des directives quand on a autant d'employés qui sont nouveaux puis sans formation. Puis malheureusement, bien, il y a eu des employés puis des soldats aussi qui ont été infectés.
Monsieur le Premier ministre, oui. En complément, il faut se dire là, que même pour les employés qui étaient déjà là, qui ont des connaissances là, au niveau de la prévention des infections, mais avec la COVID-19, les CHSLD sont des milieux de vie, mais il faut le dire, ils sont devenus des milieux de soins. Alors, ça a tout changé. Et ça, ça a été très exigeant. Et les équipements de protection, ça demande, oui, une formation, mais aussi une formation continue. Ça demande même qu'on soit deux quand on les met puis qu'on les enlève. Alors, c'est pour ça, encore une fois, comment c'est important d'avoir davantage de personnel. Et on a tout un programme qu'on a mis en branle parce que depuis le début de la pandémie, il y a même la Croix-Rouge qui nous a aidés au niveau de la prévention des infections. On met en branle tout un programme là, depuis quelques semaines là, qui va faire le tour de tous les CHSLD. Le rapport est instructif là, sur 10 CHSLD, mais tous les CHSLD, on a déjà débuté une formation costaude sur la prévention des infections. Et ça, ça va être en continu. Et on va avoir davantage de gens aussi qui s'occupent de la prévention des infections dans les établissements. Ça, c'est fondamental pour maintenant et la suite des choses.
Oui, on a entendu le premier ministre Justin Trudeau un peu plus tôt cette semaine évoquer l'idée qu'on offre aux employés 10 jours de congé maladie payés pour que les gens se sentent pas obligés d'aller travailler s'ils ont des symptômes. Monsieur Trudeau aussi ce matin était questionné sur une éventuelle implication du gouvernement fédéral dans les soins à apporter aux personnes âgées. Il n'y a pas fermé de porte. Quel rôle est-ce que vous voyez le gouvernement fédéral jouer à plus long terme, là, au-delà de la présence temporaire de l'armée, dans les soins aux personnes âgées? Si tant est que vous voyez un rôle pour le gouvernement fédéral.
Bien, j'ai dit à Justin Trudeau ce matin, d'abord, concernant les congés de maladie, qu'il y a une réaction très négative du côté des entreprises. Bon, évidemment, il y a une question là, où c'est pas clair qui va payer, mais il y a aussi une question d'organisation du travail dans un contexte où déjà les entreprises sont dans une situation difficile. Je comprends l'objectif. L'objectif, c'est de s'assurer qu'un employé qui a des symptômes ben, se sent pas obligé d'aller au travail pour gagner sa paye. Donc, je comprends l'objectif, mais on va sûrement en débattre. Là, c'est ce que M. Trudeau me dit demain soir, jeudi soir, donc à notre rencontre. Pour ce qui est du financement des soins de longue durée, ben, je l'ai dit à plusieurs reprises à M. Trudeau, moi, ce que je lui suggère, c'est d'augmenter les transferts fédéraux en santé. Je le rappelle, quand on a commencé, c'était 50 % du financement des coûts de la santé qui venait du fédéral. On est rendu à 23 % seulement des coûts de la santé qui viennent du fédéral. Donc, c'est un fardeau très lourd sur les budgets des provinces parce que les budgets en santé ont augmenté plus rapidement que l'inflation, à peu près dans toutes les provinces depuis les 10 dernières années. Donc, c'est malheureux, là. Puis en plus, on veut couper de 5 à 3 % la croissance. Alors qu'avec le vieillissement, avec les nouveaux médicaments, les nouvelles technologies, il y a une augmentation pour garder les mêmes services là, d'au moins 5 %. Donc, on fait des pressions importantes, tous les premiers ministres de toutes les provinces, pour que si vraiment le gouvernement fédéral puis M. Trudeau veulent aider au financement des soins de longue durée, mais qu'ils augmentent les transferts fédéraux en santé aux provinces.
Pour d'Olivier Bossé, le salon.
Alors, le premier ministre, quand même, qui parlait de la situation difficile que connaissent les CHSLD depuis une dizaine d'années, il manque 10 000 employés depuis très, très longtemps. Et à cause de la crise, un autre 10 000 s'est ajouté. Ça explique peut-être pourquoi on s'est ramassé dans cette situation-là ici au Québec, Vincent.
Oui, de sorte que M. Legault offre une solution à ce problème-là. Le fait qu'effectivement, il manque 10 000 employés depuis longtemps, depuis plus de 10 ans, et on en a 10 000 là, de moins en raison de la COVID-19. Heureusement, ces gens-là reviennent tranquillement, mais ça laisse quand même un manque à gagner, très important. De sorte que, on en avait ébruité un peu dans les derniers jours, mais on a détaillé cette formation qui sera donc lancée. Il y aura une grande campagne à travers le Québec là, dans les prochains jours. Mm. L'objectif, trouver 10 000 personnes qui vont suivre une formation de 3 mois cet été et qui pourront, à la suite de cette formation de 3 mois, fait qu'ils seront payés pendant la formation 21 $ de l'heure, donc le salaire des aides de service, et ensuite 26 $ de l'heure, donc 49 000 $ par année pour aller travailler justement auprès des bénéficiaires. L'objectif étant d'offrir des bonnes bonnes conditions, mais vu qu'on va on réglerait le problème de main-d'œuvre, ça rendrait le travail plus agréable aussi. Alors, on veut convaincre les gens que ça va bien se passer, ça va être le fun. Et,
mais le fun.
Ben, le fun, peut-être pas le fun.
Ça va être le gros. Ben, c'est comme un peu aller dans les champs, c'est une belle expérience.
Oui, une belle expérience. Mais on comprend que ça peut être.
Ça peut être une carrière intéressante si on est bien rémunéré, que les conditions de travail sont plus acceptables. Parce que, quand même, moi, un des trucs qui m'a accroché lors du point de presse, c'est quand M. Legault a dit qu'on avait prévu des budgets supplémentaires quand la CAQ est entrée en pouvoir et qu'il y avait des dollars qui avaient été jamais, qui n'ont jamais été dépensés, en fait, parce qu'ils n'étaient pas capables de recruter.
Oui, il y avait les postes étaient ouverts, mais les gens. Les postes étaient affichés, mais les gens n'étaient pas là. Quand même, donc, intéressant de voir ça, surtout que veut pas, le taux de chômage est très élevé, la PCU va se terminer. Donc, des gens intéressés de dire OK, ben, je peux commencer des cours maintenant, être payé pour, avoir une job dans 3 mois, dans lequel il y a de la demande. Je pense qu'il y a quand même des gens qui vont être prêts à y aller, là.
Puis, honnêtement, d'un point de vue humain, je pense que ce qu'on a vu pendant la crise de la COVID-19, ça a donné envie à certaines personnes de pratiquer ce métier-là, d'aller aider dans les CHSLD, puis pas seulement d'un point de vue temporaire, là, d'en faire justement un métier. Moi, je pense que ça aura permis de mettre en lumière ce métier-là et de voir que des améliorations allaient être apportées. Donc, si cette crise-là a eu du bon, c'est peut-être ça. Et on faisait référence notamment au rapport de l'armée qui a été déposé ce matin. J'en reparlerai tantôt avec notre directeur du bureau d'enquête, mais il a été question de la formation des gens de l'armée qui ont été obligés de montrer en quelque sorte à des préposés aux bénéficiaires puis à des gens qui venaient aider comment porter, par exemple, l'équipement de protection. Ça a été reproché, mais Daniel Mécan avait quand même une réponse intéressante à fournir.
Oui, effectivement. D'ailleurs, les deux choses que le rapport souligne, manque de personnel, là, on sait entre autres le temps partiel qui fait que beaucoup de gens se promenaient de zone froide à zone chaude. Zone chaude et le matériel, effectivement, qui a manqué. La formation, entre autres, parce qu'effectivement, on dit dans le rapport de l'armée qu'on a dû coacher ou en fait montrer, mais dans certains cas, du personnel qui ne doit pas être formé par les militaires. C'est les militaires qui étaient eux qui devaient tout simplement faire ce qu'on leur demandait.
Oui.
Et finalement, ils se sont retrouvés à faire de la formation à des agents COVID, on les appelait comme ça, pour surveiller les bonnes pratiques. Mais il y a un problème, parce que le problème du manque de main-d'œuvre fait qu'entre autres, pour les blouses, l'équipement, Mme Mécan disait qu'il faut souvent être 2-3 pour pouvoir enlever les blouses correctement. Et malheureusement, le problème de main-d'œuvre rendait ça pratiquement impossible, ou presque. Alors, c'est pourquoi François Legault a demandé, entre autres, à Justin Trudeau qu'on poursuive la présence des militaires jusqu'au 15 septembre. Donc, le temps qu'on arrive avec cette nouvelle vague fraîchement formée cet été de préposés aux bénéficiaires.
Je veux juste spécifier qu'on va revenir vers 15h30 sur cette annonce par rapport au camping. Tu auras l'occasion d'en reparler avec Mario Dumont. Deuxième journée de chaleur accablante chez nous, Vincent. Pour vrai, dès 8h15 ce matin, c'était déjà suffocant. Moi, je plaignais les gars de construction, puis ce sont des gars, désolé, qui travaillent.
Il y a des filles aussi, Geneviève.
Il y avait une fille de terrassement hier. Oui. Mais, ce matin, c'était des gars et ils faisaient du terrassement. Le mercure atteignait déjà 35 degrés. Alors vraiment, ça sera inconfortable et ça sera inconfortable aussi dans les CHSLD de la province, un peu partout, les hôpitaux, les écoles, oui, pour ceux qui ont recommencé.
C'est aujourd'hui la journée la plus chaude et aussi l'humidité, parce qu'hier, on disait l'humidité n'était pas encore entrée dans les édifices, alors c'était pas si mal, mais aujourd'hui, là, c'est un fourneau carrément dans plusieurs endroits et on sait, il y a eu beaucoup de questions, entre autres à la période de questions aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur pourquoi on ne climatisait pas les CHSLD, pourquoi on a attendu alors qu'on s'entend, les journées chaudes, on les attendait. Marguerite Blais qui se défendait, entre autres, en expliquant que ce n'était pas recommandé jusqu'à dans les derniers jours d'installer de l'air climatisé parce qu'on avait peur que la maladie se propage et qu'on a eu le OK du docteur Arruda il y a peu de temps et que là, on a mis le tout en branle. D'ailleurs, un communiqué qui avait été envoyé là, à cette fin au centre d'hébergement hier pour dire aux gens de s'arranger pour trouver des zones réfrigérées. On disait, pas réfrigérées, encore rafraîchies.
Ouais.
Et on disait, je vous disais hier que on devait utiliser de la créativité. Là. Puis ça, c'est quand même un peu particulier.
Je vous ai même donné ma recette d'air climatisé.
Oui, c'est vrai.
On espère qu'on n'aura pas à se rendre là dans nos CHSLD puis que ça ne fera pas comme les iPads.
Tout à fait, parce que si tu prends par exemple CHSLD Jeanne Lebert, y a 4 chambres sur 274 qui sont climatisées.
C'est ça.
Entre autres parce que le système électrique est trop précaire.
Oui, c'est dans des vieilles bâtisses.
Alors, je veux dire, c'est compliqué.
OK, Justin Trudeau prépare la fin de la PCU et lancement historique de SpaceX aussi aujourd'hui.
Oui, Justin Trudeau, rapidement, qui dans son point de presse, clairement, commence à donner le ton pour la fin de la PCU. Là, je peux vous faire entendre d'ailleurs un extrait du premier ministre.
Ça va être important de bien mettre fin de façon raisonnable et responsable aux différents programmes que nous avons mis en place. Il fallait aider les gens qui avaient perdu leurs revenus.
Alors, pour certains, évidemment, ça va devenir inquiétant à la fin de cette PCU dans les prochaines semaines, à moins qu'on le prolonge. Mais on sent que M. Trudeau a vu davantage miser sur la subvention salariale. Et on surveille. D'ailleurs, les réseaux de nouvelles sont à peu près tous une partie d'écran là, réservée à ce lancement prévu cet après-midi, historique aux États-Unis pour la compagnie SpaceX, les Américains qui vont lancer des astronautes eux-mêmes dans l'espace pour la première fois en près de 10 ans depuis l'arrêt des navettes spatiales. Évidemment, on devait utiliser les services des Russes avec la capsule Soyouz. C'est prévu pour 16h33. Par contre, la météo, c'est très incertain dans le ciel floridien aujourd'hui. Alors, c'est un 50-50 les chances de ce lancement. Et on le disait, selon la NASA, une chance sur 260 16 que les astronautes meurent.
Ah, oh, mon Dieu, on les voyait tantôt avec leur famille. C'est quand même très... Je pensais pas que c'était aussi élevé, les chances. Je m'excuse, je pogne de quoi en ce moment.
Moi, au contraire, j'ai trouvé ça quand même bas, là, une chance sur 276.
Moi, tu me dis que tu as une chance sur 276 de mourir, puis ça va pas du tout.
Mais on les voyait effectivement tantôt avant d'embarquer dans une Tesla. Là, on comprend que c'est SpaceX, mais de faire leur... au revoir ou leurs adieux à leur famille. Alors, petite capsule ultra moderne. C'est la première fois en presque 40 ans qu'on teste un nouveau véhicule spatial habité. Alors, à surveiller, 16h33, le lancement prévu. Sinon, c'est remis à samedi.
On te retrouve tantôt avec Mario. Merci.
Salut.
Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez Les Effrontés.
Alors, on fait un retour sur la situation en CHSLD durant la canicule et ce rapport des Forces armées canadiennes dévoilé ce matin avec Jean-Louis Fortin, notre directeur du bureau d'enquête. Bonjour, Jean-Louis.
Geneviève.
J'ai envie de te demander, comment vas-tu par cette chaleur accablante?
Moi, je vais très bien. J'ai la chance d'avoir l'air climatisé à la maison. Bon. Je travaille depuis 2 mois et demi, donc je suis parmi les privilégiés. Certainement pas dans la même situation que l'immense majorité des résidents en CHSLD qui, eux, malheureusement, non pas la climatisation.
Ben oui, parce que ce que je pouvais lire dans ce que vous avez sorti ce matin, c'est que le plus récent état de la situation qui est disponible au ministère de la Santé montre qu'environ une chambre de CHSLD sur 5 est climatisée. C'est très, très peu. Et Vincent Dessureau, tantôt, parlait notamment d'un endroit où c'était seulement quelque chose comme 4 chambres sur 200. Là.
Ah, ben il y a des établissements à 180 chambres puis 0 chambre climatisée. Il y a carrément d'établissements avec 200, 300 chambres où on constate que ça n'a jamais été mis à niveau. On n'a jamais pensé au confort des résidents. Premier constat, le bilan le plus récent, l'état de situation le plus à jour au ministère, il date de 3 ans. Hein, déjà, d'abord, si t'es un gestionnaire d'entreprise puis t'as le dernier état de situation d'un inventaire de matériel ou de ressources, il date de 3 ans, t'as peut-être un petit problème de gestion, mais ça, bon, c'est un aparté.
J'aime ça quand tu fais des apartés.
Ben, et deuxième état de situation qu'on fait en regardant ce document-là, qui, je dois dire, nous a été remis par une source confidentielle, hein, quelqu'un qui n'avait absolument pas le droit de nous remettre cet état de situation-là et qui le fait au risque de son emploi. Donc, on ne nommera pas cette très gentille personne. Nous permet de constater que, bon, il y a à peu près un inventaire de 30 000 pièces, 30 000 chambres pour aînés, et sur les 30 000 chambres, il y en a seulement à peu près 6 000 qui sont climatisées. Donc, c'est pas 25 ou 30 % comme ce que la ministre disait depuis quelques jours. Là, on est beaucoup plus proche de 20 % donc une chambre sur 5. Ce tableau-là, cet état de situation, c'est un immense fichier Excel, a été envoyé pas la semaine passée, pas cet hiver en prévision d'été. Ça a été envoyé hier à midi et demi. Hier à midi et demi, je pense qu'il faisait déjà 30 sur le thermomètre.
Je comprends. En même temps, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Jean-Louis, tantôt, on faisait référence au point de presse, justement, au fait qu'on avait attendu un petit peu avant d'opérer, si on veut, le dossier air climatisé dans les CHSLD. Il faut savoir qu'avant lundi, Horacio Arruda avait quand même pas donné le feu vert parce qu'il y avait des craintes par rapport à la transmission de la COVID. Donc, c'était pas très clair. Donc, le gouvernement explique ça comme ça. Il explique le fait qu'en pleine canicule, on a demandé de faire tout ce qu'on pouvait pour acheter ou louer des climatiseurs là, dans les prochains jours.
Effectivement, sauf que clairement, ça n'avait pas été fait dans les années. C'est pas comme la première canicule.
Non, puis tu sais, t'as tellement raison. Puis en plus, on faisait référence tantôt au système d'électrification désuet. Donc, acheter des climatiseurs, c'est une chose, mais pour les rendre opérationnels, ça sous-entend d'autres investissements. Donc, c'est peut-être tout ça qui a freiné. Puis le sous-ministre, d'ailleurs, tu faisais référence à ton fichier, un gros fichier Excel, là, quand même demandé au directeur d'établissement, si je ne m'abuse, de mettre à jour les données concernant les équipements dans les CHSLD, puis leur a donné une date butoir. Là. On essaye se dépêcher.
Non. Ça fait 3 ans qu'on n'a aucune idée de ce qu'il y a dans le réseau. Dites-nous, s'il vous plaît, dans les 5 prochains jours, d'une part, ce que vous avez, d'autre part, ce que vous avez besoin. Puis, faites-vous-en pas, là. On vous autorise à dépenser, louer des climatiseurs, achetez-en, peu importe.
On ne sait pas.
On viendrait s'installer.
C'est ça.
Puis, vous nous enverrez. On réglera la question financière plus tard. On réglera la facture plus tard. Je sens vraiment dans cette lettre-là du sous-ministre Yvan Gendron, qui est adressée à tous les directeurs d'établissement, une sorte je veux pas dire une panique, là. Je pense pas qu'il faut exagérer la situation, mais on appuie
l'urgence.
On a l'air dernière minute.
Ouais.
Et puis, si vraiment, l'impression que ça donne, c'est que si ça avait été une priorité d'offrir des milieux de vie adéquats pour nos aînés, ben, c'est pas hier qu'on aurait envoyé ces communications-là au directeur d'établissement. Ça aurait été l'année passée. Ça aurait été, depuis beaucoup plus longtemps, peu importe que les climatiseurs ou les ventilateurs, comme ce qui a été un peu véhiculé, pouvaient possiblement contribuer à répandre la COVID. Et là, ben, la santé publique nous dit finalement que non, il y a moins de risques que davantage à,
mais comme quoi,
à rendre ces milieux-là confortables.
Quand les Kodaks sont tournés vers une certaine situation, on a tendance à agir plus rapidement, mais on ne sait pas combien ça va coûter. Évidemment, la facture sera très, très salée. Revenons aussi sur ce rapport des Forces armées canadiennes sur la situation constatée par les soldats qui ont été déployés en renfort dans nos CHSLD, Jean-Louis.
Mais c'est de bonne guerre un peu que l'armée canadienne nous fasse la leçon, parce que on les a demandé en renfort en ayant l'air un peu démunis. Je me rappelle que c'était assez spécial de voir François Legault il y a 2 mois dire à Justin Trudeau, ben, viens nous aider, on a plus de ressources. Donc, je pense qu'il fallait effectivement qu'il y ait cet état de situation-là qui a été fait. Moi, je n'ai pas appris grand-chose en le feuilletant tantôt, ce rapport-là.
Ben, même le premier ministre l'a dit, on n'a rien appris qu'on ne savait pas déjà.
Parce qu'on a appris des choses absolument épouvantables dans les dernières semaines, il faut dire. Il y a quand même des points qui sont très intéressants, je pense qu'il convient de répéter. C'est sûr que je comprends qu'on blâme dans ce rapport-là une bonne partie du personnel. On parle d'absentéisme, d'employés en retard. L'absentéisme, là, il n'y a personne qui peut dire que quand il y a une crainte dans ces milieux-là, je peux parfaitement comprendre qu'il y a des employés qui ont eu peur d'entrer au travail parce qu'ils sentaient qu'il n'y avait pas d'équipement de protection, parce qu'ils sentaient qu'il y avait des symptômes, ils ne savaient pas si c'était diagnostiqué positif ou négatif, etc. Je ne mettrais pas le fardeau sur les préposés aux bénéficiaires, sur les infirmières, qui sont des gens qui travaillent dans des conditions pas faciles.
Non, c'est le
système. Ils sont quand même relativement écorchés dans ce rapport-là. On parle entre autres de manque de formation, beaucoup de roulement de personnel. Bon, ça, c'est plus problématique. Hein? S'il y a de l'équipement de protection, mais que les gens ne savent pas comment manipuler un masque ou comment retirer une blouse ou des gants de façon adéquate, je pense que là, il y a un problème. J'entendais la ministre tantôt dire qu'on est en train de revoir, de mettre en place un programme de formation musclé dans les CHSLD. Bon, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Encore là, comme tu le disais, quand il y a un problème, c'est souvent là que les projecteurs se tournent et on règle la situation. Et une chose qui a particulièrement attiré mon attention, gestionnaire pas tous compétents.
Ça, quelle surprise!
On a remarqué, il y a beaucoup de CHSLD privés au Québec. C'est une business pour faire de l'argent. Fait que tu peux avoir 4, 5, 6, 7 résidences puis en faire le moins possible au niveau de la gestion.
Mais attends, Jean-Louis, il y a des CHSLD où il n'y avait même pas de gestionnaire.
Où il y en avait un, mais pour 8 établissements.
Exact.
Donc, c'est difficile d'avoir un suivi de la situation. Puis là, ben, quand c'est une seule personne qui fait des horaires à 8 établissements différents, on peut comprendre que c'est difficile à coordonner. C'est pas pour rien que François Legault a évoqué à de nombreuses reprises dans les dernières semaines l'idée peut-être d'étatiser tous les CHSLD. Donc, que des CHSLD privés là, dans les prochaines années, il n'y en ait plus. Que ce soit le gouvernement qui prenne le contrôle. Je ne dis pas que c'est toujours la solution idéale, là, le fait que ce soit centralisé au niveau de l'État québécois. Souvent même, ce n'est pas une bonne solution. Mais dans ce cas-ci, pour avoir au moins une pratique de gestion qui est uniforme, pour être sûr qu'ils soient bien encadrés, ces établissements-là, je pense que c'est une avenue à explorer. Donc, beaucoup de constats qui sont dérangeant, troublant, mais peu de choses là, qui nous font tomber en bas de notre chaise en disant mais on ne le savait pas avant ce matin.
Très bien, Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête, et je rappelle que peut-être évidemment qu'on n'a pas appris grand-chose dans ce rapport, mais quand même, la protectrice du citoyen, Marie Rainfrette, va se pencher sur cette situation. Juste un petit rappel, là, au Québec, par rapport aux décès, il y a 2497 des 4139 décès qui sont attribuables à la COVID-19 qui sont survenus dans les CHSLD, donc c'est quand même 60% du total des morts dans la province selon les derniers chiffres officiels qui ont été publiés hier.
Les effronter.
Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
Les effronter.
Le gouvernement Legault qui envisage de prêter 276 millions au Cirque du Soleil, une option qui est critiquée par les différents partis d'opposition. Parlons tout de suite avec Martin Ouellet, leader parlementaire du Parti québécois, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'économie et de finances. Monsieur Ouellet, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, tout d'abord, avant qu'on se parle plus en profondeur du Cirque du Soleil, j'aimerais avoir votre réaction au Parti québécois à propos du dépôt de ce rapport concernant les CHSLD, un rapport quand même qui a été déposé 5 minutes avant la fin de la période de questions.
Oui, on a dû en prendre rapidement connaissance et effectivement, on n'est pas surpris de ce que nos militaires ont pu trouver.
Oui.
Sur le terrain, ça a été rapporté la difficulté de respecter les zones sombres. Mais évidemment, la grande question qu'on a, comment se fait-il que même si les équipements de protection individuelle sont disponibles, il y avait malheureusement des gens qui les portaient peu ou pas, ou qui les portaient de façon inadéquate. Là. Donc on sait que ça a été des zones à risque dans le cas des CHSLD. Donc entre la directive donnée par le ministère et l'application sur le terrain, on se rend bien compte qu'encore une fois, il y avait une erreur de communication. Et c'est ça qu'on explique bien mal, surtout en temps de pandémie. Là.
Bon, revenons sur le cas du Cirque du Soleil, si vous le voulez bien. Monsieur Ouellet, Guy Laliberté, qui a vendu ses actions à la Caisse en février, au moment précis où la COVID commençait en Chine. Il y avait d'ailleurs des spectacles qui avaient été annulés. Le cirque était déjà en difficulté. Et bon, puisqu'on parle maintenant de prêter 276 millions, les partis de l'opposition, évidemment, sont pas d'accord avec ça. Il y a Vincent Marissal de Québec solidaire qui dit que ce prêt-là qui serait accordé au cirque, c'est une subvention déguisée.
Oui, c'est sa prétention. Nous, c'est l'urgence ou le momentum que le gouvernement a choisi de nous annoncer ça hier. Moi, il n'y a pas beaucoup de monde qui me parle des enjeux du soleil. Je comprends que tous les travailleurs sont au chômage présentement et comme plusieurs travailleurs au Québec, ils sont laissés pour compte. Mais moi, j'ai des restaurateurs, des propriétaires d'entreprises, des gens qui en arrachent présentement et qui auraient besoin d'aide supplémentaire outre les programmes qui sont annoncés. Et de voir hier que le gouvernement s'empressait déjà d'annoncer un deal avec le Cirque du Soleil sans connaître les détails, en donnant une option ultérieurement de peut-être la racheter. On comprend bien mal quelle était l'urgence et pourquoi le gouvernement a choisi de faire ça de cette façon-là à ce moment-ci.
Vous me dites que c'est un mauvais jugement au niveau de la priorité des investissements?
Bien, je veux dire, il y a d'autres entreprises qui sont un peu dans des situations troubles, je vous dirais. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de support. Les programmes qui sont présentés ne sont pas tout à fait adéquats. Il y en a qui demandent des subventions. Les restaurateurs qui sont dans la rue demandent de l'aide supplémentaire. Et là, on arrive avec un 280 millions pour le Cirque du Soleil, pour protéger les emplois. Mais on voit bien mal quelle était l'urgence de faire ça à ce moment-ci.
Bien, en même temps, M. Ouellet, oui, c'est pour protéger les emplois, mais il y a quand même un enjeu majeur. Je pense que le gouvernement, évidemment, ne veut pas gérer le cirque, mais c'est un prêt pour permettre de garder les décisions par rapport au cirque ici, chez nous.
Bien, c'est ça de la façon suivante, c'est que là, on vient de s'inscrire au jeu. Et donc, si effectivement, ultérieurement, il y aurait des discussions avec d'autres partenaires pour une acquisition subséquente, mais le gouvernement du Québec pourrait s'assurer que ces décideurs-là soient soit du Québec. Donc, ça nous donne une position prépondérante, du moins pour être à la table de, pas de, de négociation, mais au moins à la table d'échange. Cela étant dit, je comprends la prétention du Québec de reprendre le site du soleil et d'en faire un giron québécois, mais je pense que ce n'était pas la priorité présentement dans l'économie du Québec, considérant qu'il y a plusieurs PME à la grandeur du Québec qui appartiennent déjà à des Québécois qui ont besoin d'aide et présentement l'aide n'est pas suffisante. Donc, quand je suis un entrepreneur, je suis présentement fermé, puis je ne sais pas quand est-ce que je vais ouvrir, puis je suis à risque, puis je vois le gouvernement allonger 280 millions pour le site du soleil, pour prendre une position qui pourrait ultérieurement nous emmener à de l'actionnariat québécois, je me dis, ben, pourquoi est-ce qu'on nous a pas aidé, nous, les gens entrepreneurs du Québec, qui font partie des régions du Québec, à aller de l'avant? Je pense que c'est ça un peu le double discours que les gens ont besoin à absorber et à accepter.
Oui, mais c'est comme si vous disiez, M. Ouellet, que le fait d'aider le cirque nous empêche d'aider les autres. C'est pas nécessairement le cas, là. C'est pas ça qu'on dit, c'est pas ça qu'ils font.
Non, mais le 280 millions d'investissement Québec, il est investi là, mais il ne sera pas investi ailleurs. Pourquoi ne pas avoir pris ces 280 millions et de le rendre disponible dans d'autres programmes qui auraient donné des résultats concrètement ici, dans les entreprises, partout au Québec? Là, on décide, avec le bras financier d'investissement Québec, de faire un gros investissement de 280 millions dans le sol du soleil, alors qu'on a des entreprises qui demandent de l'aide et qui n'ont présentement pas tous les outils nécessaires pour passer à travers la crise. Donc, est-ce qu'il aurait pu le faire? Il aurait pu le faire n'importe quand, mais pourquoi à ce moment-ci, qu'est-ce qu'il était criant et important de faire à cette étape-ci? On ne le sait pas encore. On va voir l'entente. Le ministre nous a dit en chambre aujourd'hui qu'il avait déposé l'entente de façon très transparente pour que les Québécois sachent dans quoi on s'est embarqué. Mais encore une fois, présentement, les actionnaires sont dans les îles Caïmans. Ce sont des fonds d'investissement. La Caisse a sa partie. Investissement Québec vient de prendre une participation sous forme de dette. On aura l'opportunité de racheter cette dette-là pour avoir une prise de participation et d'être après ça autour de la table de discussion. Mais au final, pourquoi cet empressement de sortir cette nouvelle-là rapidement hier dans un impromptu point de presse juste avant la période de questions, alors que les entreprises du Québec ont de la misère présentement et certains sont dans la rue pour demander de l'aide du gouvernement?
Eh bien, c'est ça, parce qu'en apparence, ce qui est drôle aussi de souligner par rapport aussi à la participation de Guy Laliberté là-dedans, c'est que M. Laliberté va peut-être sauver le cirque à cause d'une dette créée par sa vente.
Absolument, là-dessus, puis c'est ça que les Québécois et Québécoises veulent savoir aussi. Combien serait-il qu'il y a eu des tractations et des discussions avant pour que la Caisse de dépôt rachète la participation de Monsieur Laliberté au courant du mois de février? On savait un peu pas exactement ce que la pandémie allait être, mais ça pointait déjà à l'horizon. Certains spectacles avaient déjà été annulés en Chine, donc on avait une indication, est-ce qu'on n'aurait pas pu stopper la transaction et attendre? Là, on est allé de l'avant, on a pris une prise de participation, puis aujourd'hui, celui qu'on a sauvé serait le sauveur à moindre coût. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est que les droits québécois, ça va avoir plus de réponses aux questions.
À quel prix ça serait raisonnable de racheter le cirque, selon vous?
Ah, ben écoute, il faut voir présentement qu'est-ce que ça vaut. J'entendais le ministre de Guilbault ce matin dire que présentement, tout est arrêté. Le cirque vaudrait à peu près 200 millions, considérant les créances de 900 millions qu'il a. Ce qu'il faut regarder, c'est le nombre d'emplois maintenus du côté du Québec, la capacité de création, mais surtout la capacité du cirque de se réinventer dans un nouveau contexte. Et je pense que c'est ça présentement qu'on n'a pas.
Ben oui, parce que là, on parlait de la subvention. Je pense que c'est important de dire, là, parce que c'est vraiment tentant de dire que c'est une subvention déguisée. Un prêt, c'est pas une subvention, là. Ça peut être critiqué. En fait, juste si le prêt est non rentable, mais quand même, il y a une forte possibilité de perte puis de non-couverture en intérêt du coût des fonds pour le gouvernement, là, si on va de l'avant.
Tout prêt représente un risque et le fait que le risque est évalué, la contrepartie, c'est de l'intérêt. Présentement, on n'a pas ces taux-là, mais j'espère qu'effectivement, les taux sont aussi élevés que le risque représente pour le portefeuille des Québécois. Mais cela étant dit, vous avez raison, ça représente un risque. On n'a aucune certitude. Et là, on va voir des joueurs à la table en train de discuter pour peut-être prendre une prise de participation. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la prise de participation d'Investissement Québec dans le ciel du soleil, on vient de rehausser sa valeur, donc on vient de la rendre plus intéressante à d'autres acheteurs. Et on vient donc, dans le fond, de donner une opportunité aux différents fonds qui ont déjà été investis à l'intérieur de retirer le billet à moindre coût. Donc, c'est pour ça que cette transaction-là représente des choses un petit peu plus complexes. Et lorsqu'on verra les ententes en question, on va être en mesure d'apprécier la qualité du risque, les garanties que le gouvernement a demandées et de quelle façon on peut les réaliser et à quel moment aussi, parce que le gouvernement du Québec va pouvoir racheter les autres partenaires, mais on n'a pas la date, on n'a pas les conditions. Et ça, ça présente aussi des interrogations importantes pour les Québécois et Québécoises.
Je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est comme dire que Guy Laliberté va passer deux fois à la caisse. Timing is everything, comme on dit en enfant. Merci beaucoup, M. Ouellet, leader, Martin Ouellet, qui est leader parlementaire du Parti québécois, porte-parole du troisième groupe d'opposition, pardon, en matière d'économie et de finances. Bonne journée.
Merci à vous, Mme la Portelle.
Les effrontés.
Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
Les effrontés.
Hey, les vrais enjeux, les vraies questions. Certains, surtout avec Émilie Ouellet, notre collaboratrice, on va se questionner sur la fréquentation obligatoire des élèves malgré les écoles qui sont fermées. J'en parle pour vrai. C'est mon obsession à quel point je trouve qu'en ce moment, c'est pas optimal. Émilie, salut.
Salut, ça va?
Ben écoute, je sais pas si ça va parce que à l'heure où on se parle, là, pendant que je suis en train de faire l'intro de ton sujet, je reçois un texto de ma fille qui est en ce moment même en train de suivre un cours en ligne et elle a des problèmes techniques et elle ne comprend rien. Et je ne peux pas l'assister parce que je suis à la radio. Donc, je me sens à la fois une mauvaise animatrice qui répond à sa fille pendant qu'elle anime et une mauvaise mère parce que je suis pas là pour l'accompagner. Écoute, c'est ça.
C'est ça qui se passe. Je ne peux pas avoir une meilleure situation pour introduire...
C'est un bon timing.
C'est un excellent timing et beaucoup d'empathie à ta fille qui vit ça en ce moment.
J'ai texté « sac-moi patience, je t'en onde ». C'est pas vrai.
Voilà. C'est pas vrai. Il fait le souper si tu peux. Non, mais pour vrai, tu viens de dire, nous, on a reçu... En fait, je vais s'expliquer pour les gens, en fait, en général, ceux qui ont les écoles fermées encore, on a reçu une... Ben, en fait, on a reçu un courriel. Moi, je parle pour
un
moi.
Un seul?
On a reçu un courriel vendredi dernier en après-midi pour nous dire que cette fréquentation scolaire obligatoire allait commencer lundi. Déjà le court laps de temps pour se revirer de bord.
Se faire à l'idée,
mais s'organiser aussi. Parce que tu viens de dire, là, ta fille est chez elle, tout seule, en train de... Ben, ou tout seul, je sais pas où, mais...
Ben, elle garde son frère et sa sœur aussi, accessoirement, là, voilà. C'est quand même tough.
C'est ça. Fait que là, elle essaye de suivre un cours à distance. Moi, je rappelle quand même, là, j'ai trois enfants qui fréquentent la même école.
Arrête de te penser bonne.
Non, mais c'est pas pour vrai. L'horaire qui m'a été donné pour lundi, ça faisait de 9 à 4. C'était vraiment de 9 à toutes les heures pour un enfant différent. Puis il y avait des rencontres avec ça, avec les parents, tout ça.
Super.
Je te dis, mon vendredi soir, c'est pas bien passé parce que c'est comme si. Puis tu sais, en même temps, je dis ça, puis je ne blâme pas les profs, là, qui.
Non, eux, ils font leur possible en essayant d'appliquer les règles. C'est ça qui se passe.
Ils appliquent les règles, mais c'est que les règles viennent de quelque part. Puis là, on parle du ministre de l'Éducation, du gouvernement. Pour vrai, je suis outrée, furieuse, fâchée qu'on remette encore ça sur les épaules des parents. Tu sais, c'est en ce moment, il y a du télétravail pour ceux qui travaillent. Puis même si tu travailles pas, moi, mes enfants, ils sont pas autonomes tout seuls devant un ordi, là. Je peux pas espérer toutes les plugger sur Teams ou sur Zoom, puis aller faire autre chose à côté. Premièrement, mon fils, il a passé la dernière fois que je l'ai laissé tout seul avec Zoom puis sa classe, et je pense qu'il a changé les backgrounds en fond vert, puis il s'amusait.
Mais attends, c'est tellement drôle parce que ce matin, mon autre fille, celle du milieu, faisait un Zoom justement, un team, pardon, avec sa classe, et la prof faisait de la discipline team. Ça, c'est un nouveau phénomène. Elle disait, bon, les amis, là, ça serait important que vous focussiez sur l'enseignement que je suis en train de vous donner, que vous changiez pas non plus les backgrounds. Là, Lucie, là, pourquoi t'enregistres la conversation? Je pense que il y a comme une discipline team qui vient de s'ajouter. Là.
Complètement, c'est absurde. Puis ça, moi, j'oublie que je peux pas crier non plus. Là, comme ça freine mes élans. Des fois, à la maison, j'ai tendance à m'emporter, mettons, quand tout arrive. Puis là, tu dis, oh non, là, on est entendu. Tu sais, comme il y a des
affaires. Il faut quand même préserver notre image publique.
Exact, mais pour vrai, puis après ça, je me suis dit, mais comment ils font quand, tu sais, mettons, les élèves à besoins particuliers, là, tu sais, je veux dire, les TDAH, mettons, juste ça. C'est juste
là.
Un trouble de déficit d'attention. Ah, t'as plein d'images, t'as plein de personnes, tout le monde est, pour vrai,
Oui, puis t'as la maison autour de toi aussi, on le sait, là, pour les travailleurs autonomes que nous sommes.
Oui.
Travailler à la maison, c'est quand même un défi parce que toutes sortes de tâches, il y a des distractions qui sont aussi présentes pour les enfants, là, parfois, ils décident d'être dans la cuisine au lieu de dans leur chambre. Il y a du va-et-vient, il y a de la préparation de repas, donc tout ça, là.
Moi, j'ai un enfant de 2 ans aussi qui vient gosser tout le monde.
On le sait, mais oui, puis elle est fatigante, elle dort jamais, ça, on le sait aussi.
Exact. Fait que, tu sais, je veux dire, pour vrai, à quel point te dire, je n'ai pas de synonyme qui dit à quel point ce n'est pas une bonne idée. Je ne comprends pas pourquoi le ministère de l'Éducation, le ministre, n'importe qui, là, si on peut me donner son numéro de téléphone, je vais l'appeler.
Mais veux-tu t'expliquer pourquoi? Mais non, mais ça s'appelle la loi sur l'instruction publique.
Oui, mais non, mais la loi sur l'instruction publique, là, dans un temps de crise, ça prend des mesures exceptionnelles. On est dans des mesures exceptionnelles.
On s'entend-tu là, qu'il n'y a personne qui aurait eu des effets, en tout cas, peut-être une infime minorité là, très, très importante, de juste stopper l'année scolaire? Parce que là, en ce moment, il y a des répercussions dans les familles. Ça crée un stress énorme pour les parents, les enfants, des tensions. Moi, ma fille, j'ai pas honte de dire là, que j'ai dû appeler la psychoéducatrice de son école parce que ça lui causait un stress de répondre devant les amis. C'était comme si elle était questionnée. C'est tout du nouveau, là. Puis en plus de gérer l'anxiété avec la pandémie, ça fait beaucoup, beaucoup de nouveautés là, pour nos enfants qui sont, disons-le, quand même assez des petites bêtes de routine.
Bien, complètement. Puis cette anxiété-là, ça nuit à la relation qu'on a aussi avec nos enfants. Oui. Je veux dire, c'est fou que je me batte avec toi tout le temps pour que tu ailles faire ton Zoom, faire tes travaux, faire tes... Il n'y a rien de le faire, sans compter que je ne suis pas professeur, moi, personnellement. Fait que, tu sais...
Non. C'est un métier, hein? C'est ça qui se passe.
Mais non, mais c'est ça. Fait que je trouve que ça augmente le stress, l'anxiété. Je sais pas si tu connais ma collègue Léa Strelitzky.
Oui.
Qui a écrit un
super. Qui est une nouvelle chroniqueuse à sucré salé, par ailleurs. J'étais très contente d'avoir arrivé. C'est la petite plug TVA ça, du jour. C'est ça.
C'est pour vrai, je l'adore. Puis elle a dit dans un article, en fait, à propos de ça, elle a dit.
Dans l'actualité,
elle a dit, mais tu sais, pour elle, l'école est finie. Puis elle a dit, le gouvernement ne devrait pas nous faire porter le poids de ses échecs.
Non, mais écoute, je chroniquais exactement sur le même sujet vendredi dans le Journal de Montréal. Puis je me disais, ne serait-ce que pour la question du matériel électronique, il y a plein d'enfants qui n'ont pas accès. Si tu as 3 enfants ou 4 enfants, c'est quoi, t'achètes-tu 4 ordinateurs? Il va-tu avoir un crédit d'impôt? Puis la question que j'ai pas posée dans ma chronique, mais c'est la question que je pose quand même. C'est qu'est-ce qui arrive si je le fais pas? Hein? Qu'est-ce qui arrive si, comme Léa Strelitzky, je me dis, hey, l'année scolaire est finie? Mais je sais, moi, qu'est-ce qui arrive parce que dès que mon enfant est pas au Zoom ou au Teams, j'ai une communication avec son professeur, un courriel, pourquoi il était pas là, nanana. Fait que, tu sais, ça crée de l'anxiété de performance chez les parents.
C'est ça. Moi, j'ai réglé ça pour vrai. J'ai écrit à chacun des professeurs de mes enfants. J'ai écrit à la direction aussi. Mais j'ai écrit pour exposer notre situation financière précaire, le stress, l'impossibilité de le faire, l'horreur qui marche pas. Puis, on va essayer du mieux qu'on peut de faire ce qui est demandé, puis, tu sais, d'assister quand c'est le temps. Mm. Mais si on l'est pas, on l'est pas. Tu sais, puis, pour vrai.
Mais regarde, puis, moi, je parlais, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de profs qui m'écrivent en ce moment parce qu'ils savent que je m'intéresse vraiment de près au dossier de l'éducation. Oui. Malheureusement, ils veulent pas trop parler publiquement. Puis, je les comprends, là. Mais par rapport aux évaluations de fin d'année, là, il n'y aura pas d'examen en tant que tel, mais juste de dire passe ou passe pas, puis tout ça, ça va déjà être un casse-tête, ça va être vraiment du sport gérer les parents. Ça va être quelque chose.
Posons-nous la question pour vrai, là. En ce moment, c'est ça. Fait que là, ils cherchent à avoir du matériel pour évaluer pour un troisième bulletin dans lequel ils vont juste mettre échec ou passage.
Ben, c'est ça.
Mais là, c'est déjà cette situation-là, mais de toute façon, le gouvernement, en annulant tous les examens du ministère cette année, a déjà dit que le rattrapage se ferait au début de l'année prochaine, de toute façon.
Mais ma fille, au secondaire, elle a des travaux qui seront évalués, là. Attention, là. C'est pas la même chose.
Mais tu comprends? Et là, pour moi, c'est là l'incohérence, tu comprends? Je me dis, regarde, on est en temps de crise, les mesures exceptionnelles, on pourrait s'inspirer de l'Alberta pour une fois, ce qui est quand même rare. Mais puis dire, ben, les autres, ils ont déjà fermé les écoles de toute façon, puis ça va aller à l'année prochaine, puis on fera un rattrapage puis un ajustement pour tout le monde. Parce que là, on est rendu à combien de vitesse dans ce système d'éducation-là? On dirait qu'il est.
On est à cloche!
Sérieux, je suis comme, j'allais me dire, moi j'ai un vélo de vitesse, on est rendu là dans l'éducation, ça n'a plus de sens. Fait que, j'ai beaucoup d'empathie pour terminer là-dessus, j'ai beaucoup d'empathie pour les profs qui ne font qu'appliquer, mais j'aurais un souhait qu'on se mobilise vraiment les parents, les profs ensemble, puis qu'on le dise que ça n'a pas de sens, puis parce que c'est les enfants qui en sont les victimes, tu sais. Fait qu'il faut penser à eux d'abord, t'sais.
Ben oui, puis j'ai envie de dire que les parents aussi sont des victimes collatérales là-dedans, là, les chicanes que je peux voir. Bon. Ça fait l'objet de beaucoup de discussions sur des groupes de parents sur Facebook. Émilie Ouellet, merci d'avoir été là. On te retrouve la semaine prochaine. Merci à Frédéric Mockel à la recherche, Gabriel Meunier à la mise en onde. Je vous laisse avec Mario Dumont, Vincent Dessereau aussi qui fera le point sur les annonces par rapport au retour du camping au Québec cet été. On se retrouve demain.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.